OK, on va continuer notre étude qu'on avait débutée la semaine dernière, là, qu'elle va probablement prendre cette semaine et l'autre semaine. Donc, ce qu'on regarde dans cette leçon-là, c'est comment on définit la dépression et ses symptômes. On avait regardé que une des premières choses que l'auteur que je me sers utilise pour les dépressions, il dit quand ça arrive, une des premières choses à faire, c'est de faire un genre d'inventaire sur soi en 5 étapes. Et les cinq domaines, regarder notre vie dans les 5 grands domaines. Autrement dit, notre situation générale dans nos vies, nos pensées, nos sentiments, notre corps et notre comportement. Alors, il conseille de faire un inventaire dans tous ces domaines-là. On avait commencé à regarder la situation générale la semaine dernière. Et on avait regardé, on était rendu au deuxième point, qui était le deuxième domaine, notre vie de pensée. Alors, on avait regardé que lui, il propose, par exemple, 10 faux modèles de pensée que les personnes, souvent, qui sont en état de dépression, ont, des modèles de pensée, des patterns, qu'on appelle. Il y en aurait 10. Il en propose 10 et il donne 3 exemples. À chaque faux modèle ou pattern de pensée, et il va regarder les choses sous 3 angles différents. Il va regarder d'abord un exemple de la vie ordinaire dans ce faux pattern-là. Après ça, il va regarder un autre dans la vie spirituelle. Et après ça, il va en prendre un troisième tiré de la Bible. Alors, les 10 patterns, il va toujours regarder ça en 3 étapes. Alors, on va commencer par la première. Premier faux modèle de pensée qui peut amener des répercussions sur ta vie émotive ou ta vie de dépression. Ce que lui appelle les faux extrêmes. Alors, c'est la tendance, comment on peut définir ça? C'est la tendance à évaluer nos qualités personnelles de façon extrême, tout en noir ou tout en blanc, sans tenir compte qu'il existe dans la vraie vie des nuances de gris. Un exemple, alors là, je vous dis les 3 exemples qu'il donne. Un exemple tiré de la vie. Vous faites une erreur en préparant un repas ou une recette et vous concluez que vous êtes bon rien. Alors, on part d'une affaire et on étend ça à toute notre vie au complet. Un exemple spirituel. Vous avez une pensée pécheresse en priant et vous concluez que vous êtes un apostat. Donc, c'est des pensées extrêmes, ça te dit. Et l'exemple biblique. Lorsque Job, qui avait vécu une vie de bénédiction et de prospérité, a traversé une période d'intense souffrance et d'affliction, il a conclu qu'il devait être un ennemi de Dieu. Voyez-vous, Job, il a traversé ça des bouts très bien, d'autres bouts un peu moins bien. Quand on regarde, par exemple, dans Job 13, verset 24, il dit « Pourquoi caches-tu ta face et me tiens-tu pour ton ennemi? » Alors là, à cause de son épreuve, il est rendu qu'il accuse Dieu d'être son ennemi. Alors ça, c'est vraiment un exemple de faux extrême. Ou bien non, il dit dans Job 33, verset 10, « Voici, Dieu me cherche querelle et il me tient pour son ennemi. » Alors, à quelque part, là, Job, à cause de son état, il est rendu qu'il fait des généralisations qui sont pas de bien. Une autre faux pattern, c'est ce qu'on appelle la fausse généralisation. Alors, ceci arrive lorsque vous expérimentez un événement douloureux. Vous concluez que la même chose vous arrivera encore et encore. Il t'arrive de quoi? Puis tu dis, ben oui, on sait bien que ça arrive un qu'à moi, puis ça va m'arriver encore. Puis tu es toujours en train d'extrapoler, comme on dit. Alors, un exemple tiré de la vie. Les avances d'un jeune homme sont repoussées par la jeune fille qu'il aime. Et il conclut que ceci lui arrivera constamment. Et il décide de ne jamais exprimer de nouveau ses sentiments ou de ne jamais se marier. Une fausse généralisation. Une fille a refusé ton avance. Tu vas lui demander de danser, elle dit non, tu t'en vas chez vous, puis tu boudes, puis là tu dis, ben moi je ne me marierai pas jamais, ben ça ne marchera jamais. Puis... C'est des affaires qui arrivent pour le vrai dans la vie. L'exemple spirituel. Lorsque vous essayez de témoigner à quelqu'un et qu'on se moque de vous. Vous concluez que ceci arrivera toujours et vous ne tentez plus de gagner une âme à Christ. Tu fais une généralisation. T'essayes, ça marche pas, tu dis, bon, je donne rien, moi, je suis jamais capable. Troisième exemple, exemple biblique. Jacob a cru que parce qu'il croyait que son fils Joseph était mort, que Siméon avait été gardé prisonnier en Égypte, qu'il ne devait pas envoyer Benjamin en Égypte tel qu'exigé par Joseph, qui était alors le maître après Pharaon. On lit dans Genèse 42, verset 36. Alors Jacob, leur père, leur dit, « Vous m'avez privé d'enfant. Joseph n'est plus et Siméon n'est plus et vous emmèneriez Benjamin? C'est sur moi que toutes ces choses sont tombées. » Alors là, ce qui ne se rend pas compte, c'est que les deux qui disent qu'ils ne sont pas là, sont là. Et alors, ils sautent trop vite aux conclusions. Des fausses généralisations. Le troisième, c'est ce qu'on appelle un faux filtre. Lorsque nous sommes déprimés, nous avons la tendance à interpréter de façon négative les événements qui nous arrivent et à concentrer notre pensée sur cette idée à l'exclusion de tout autre. Nous filtrons et rejetons le positif et concluons que tout est noir et tout est négatif. Exemple tiré de la vie. Vous avez obtenu 90% lors d'un examen, mais la seule chose qui vous préoccupe, c'est les 10% manquants. Spécial. Exemple spirituel. Vous avez entendu quelque chose qui vous déplaît ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord dans un sermon et vous avez retourné à la maison en ne pensant et en ne parlant que de cette partie du culte. Alors, il y a un culte qui peut durer, disons, 45 minutes. Le pasteur peut avoir dit une phrase, mais cette phrase-là, vous n'étiez pas d'accord, alors vous n'avez pas écouté le reste. Quand vous avez arrivé chez vous, la seule chose qui vous revenait à l'esprit, c'est ça. Exemple biblique. Alors qu'il avait été témoin des interventions miraculeuses et puissantes de Dieu sur le mont Carmel, Élie oublia et mit le focus sur l'opposition farouche du roi Achab et de Jézabel. Alors, il avait été témoin de choses extraordinaires que Dieu avait faites, mais là, il entend parler que la reine y en veut, et là, il perd courage, il se pousse. Alors, c'est vraiment un faux filtre. Alors, dans 1 Roi 19, verset 10, ça dit, « Et il répondit, parla à Dieu, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée, et je suis demeuré moi seul. Et il cherche ma vie pour me l'enlever. » Et un peu plus tard, le Seigneur a dit qu'il n'avait 7000. Alors, il se pensait tout seul, puis il a généralisé. Il a vraiment des fausses lunettes. Il ne regarde pas les choses avec la bonne angle. Quatrième, faux pattern de pensée, la fausse transformation. Lorsque nous sommes dépressifs, nous transformons des expériences neutres ou positives en expérience négative. La personne déprimée n'ignore pas les expériences positives, mais elle les disqualifie ou les tourne en leur opposé. Exemple tiré de la vie. Lorsque quelqu'un vous complimente, vous concluez que la personne est hypocrite ou qu'elle ne cherche qu'à vous exploiter ou à obtenir quelque chose de vous. Exemple spirituel. Lorsque vous recevez une bénédiction d'un verset ou d'un sermon, vous décidez que c'est seulement le diable qui cherche à vous séduire. Exemple biblique. Jonas vit que les Ninivites s'étaient repentis à la suite de sa prédication. Au lieu de se réjouir de cette expérience positive, il s'enragea et demanda à Dieu de lui ôter la vie. Spécial, hein? Et moi, je ne suis pas content, Dieu. Tu les as convertis, puis moi, je suis boude. Alors, Jonas 4, verset 2 à 4. « Et il fit sa requête à l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'était-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car mieux me vaut la vie que la mort. » Et l'Éternel lui dit, « Fais-tu bien de t'irriter? » La mort que la vie, excuse-moi. La cinquième faux pattern, c'est la fausse lecture de la pensée d'autrui. Ça, je vous le dis, là, ça, c'est vraiment un faux pattern que j'ai vu maintes et maintes et maintes fois dans ma vie et dans les églises aussi. Tu penses que tu sais ce qui se passe dans la tête de l'autre. Alors, nous pouvons croire que nous connaissons ce qu'une personne pense de vous. Nous pensons que cette personne nous hait ou qu'elle croit que nous sommes stupides. Cependant, de telles conclusions négatives ne sont ordinairement pas supportées par les faits. Exemple tiré de la vie. Une personne peut ne pas s'être arrêtée pour vous parler ou elle est arrivée en retard à un rendez-vous et vous concluez qu'elle ne vous aime plus. Ça ne dit pas d'arriver à personne, ça dit tout à faire demain. L'exemple spirituel. Une personne qui avait l'habitude de vous parler à l'église ne vous adresse pas la parole et vous décidez que vous n'êtes plus dans ses faveurs. Vous ne le savez pas, mais la personne traverse un moment difficile dans son mariage et il est trop absorbé par son problème et il est trop embarrassé pour le partager. On saute vite aux conclusions. Ça, c'est, je l'ai vu tellement souvent, là. Et l'exemple biblique, un jour, le psalmiste a conclu que tous les hommes sont menteurs. Après réflexion, il admet que son jugement est trop hâtif. Alors, c'est la lecture de la pensée, ça, je l'ai vécu tellement souvent, là. Il pense ça de moi, il a voulu dire ça, puis je sais. Là, tu lui dis, ben, t'auras pas intérêt à aller voir la personne et à lui demander si c'est vraiment ça qui se passe, si c'est vraiment ça son intention. Non, je le sais. Mais quand tu fais des affaires de même, là, ça a une influence sur ta vie psychologique, ta vie spirituelle. Tu accuses les autres d'affaires dont tu n'es pas sûr. Puis quand tu lui dis, ben pourquoi tu ne vas pas vérifier? Je le sais. Je l'ai entendu tellement souvent. Ça me fait de la peine quand j'entends quelqu'un raisonner comme ça. Parce que souvent, on est témoin de ça. Ça m'est arrivé même ici, dans l'église. Ici. As-tu pensé, devras-tu aller vérifier? Je n'ai pas d'affaire à vérifier, je le sais. Ça, c'est extrêmement dangereux. Sixième, une fausse prédiction de l'avenir. Nous employons cette technique lorsque nous croyons fermement que les choses tourneront mal, telles que nous le prévoyons, et qui est basée sur de fausses émotions, et nous les prenons pour des faits. Nous nous attendons à ce que la catastrophe arrive, et cette attente produit du désespoir et un sentiment d'impuissance. Exemple tiré de la vie. Vous êtes convaincu que vous serez toujours déprimé et que vous n'irez plus jamais bien. Vous croyez ceci en dépit des preuves qu'un grand nombre de personnes sont sorties victorieuses de la dépression. Tu es tellement sûr que tu t'en sortiras jamais, ça se peut pas. Je m'en sortirai jamais. Alors, la personne se convainc elle-même qu'elle ne s'en sortira jamais. Alors, c'est bien plus dur de s'en sortir quand tu es convaincu que tu ne t'en sortiras pas. Exemple spirituel. Vous êtes convaincu que vous ne serez jamais capable de prier en public. Vous croyez ceci en dépit du fait qu'avec de la pratique, la grande majorité des gens sont capables. Exemple biblique. Lorsque Thomas a anticipé l'opposition que Jésus devait rencontrer à Béthanie, il a prédit faussement sa propre mort, mais également celle des autres disciples. Jean 11, verset 16. Thomas, appelé Didyme, le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui. » À quelque part, on se reconnaît, hein, la psychologie humaine, comment elle marche. La septième faux pattern, c'est ce qu'on appelle des fausses lentilles ou des fausses loupes. Ceci arrive lorsque nous voyons nos peurs, nos erreurs, à travers une loupe grossissante et que nous en déduisons des conséquences catastrophiques. Tout prend des proportions démesurées. C'est comme si on regarde nos problèmes avec une loupe et on dirait qu'on les grossit. On dirait que ça nous fait plaisir de grossir un petit peu. Exemple tiré de la vie. Lorsque vous faites une erreur au travail et que vous concluez que vous serez congédié, et faites une gaffe, ah, c'est sûr, je vais me mettre dehors. Ah, c'est sûr. Exemple spirituel. même lorsque vous savez que vous avez reçu le pardon de Dieu. Vous mettez encore l'emphase sur vos péchés du passé, de telle façon que cela vous conduit dans des sentiments continuels de culpabilité, d'auto-condamnation et de peur de la punition. Exemple biblique. Lorsque Pierre a renié le Seigneur, il a non seulement pleuré amèrement, mais il a pris la décision catastrophique qu'il n'avait d'autre solution que d'arrêter de prêcher et qu'il devait de retourner à son métier de pêcheur. Alors, ça dit dans Jean 21, verset 3, « Simon Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher », ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et entrèrent aussitôt dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Alors, un autre aspect est que lorsque vous maximisez vos fautes et vos erreurs avec une loupe, vous avez aussi la tendance à regarder à travers vos binoculaires à l'envers et vous minimisez vos bonnes actions et vos bons atouts. Autrement dit, tu prends des petits problèmes, t'es rend gros, juste par ton esprit, ou bien non, t'as des belles qualités, puis t'es voué plus tellement que t'es centré sur des fausses affaires. Le huitième, c'est les faux raisonnements qui sont basés sur des sentiments. Les personnes qui souffrent de dépression ont la tendance de prendre leurs sentiments pour la vérité. Ils laissent leurs sentiments déterminer les faits. Exemple tiré de la vie. Vous vous sentez inutile et vous concluez que vous êtes inutile. Alors moi, je ne me sens plus rien. Je ne vois plus rien, moi. Je ne voudrais plus jamais rien, moi. Exemple spirituel. Vous vous sentez non pardonné et vous concluez que vous êtes impardonné. Vous vous sentez coupé de l'amour de Dieu et vous concluez que Dieu ne vous aime plus. C'est un peu l'exemple de Job tantôt, là. Il se sentait, qu'il pensait que Dieu l'avait oublié, il pensait que Dieu t'a rendu son ennemi, il pensait que Dieu lui cherchait la chicane. Alors, un exemple biblique, lorsque David a connu des sentiments négatifs sur lui-même, il a conclu hâtivement que Dieu avait coupé les liens avec lui. Pas n'importe qui, là, David, là. Alors, psaume 31, verset 22. « Je disais dans ma précipitation, je suis retranché de devant tes yeux, mais tu as exaucé la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. » Neuvième, les faux « je devrais ». Notre vie peut être submergée ou dominée par des « je devrais » ou des « ils devraient ». Soit je devrais ou soit les autres personnes. Ils devraient. C'est comme si les autres ont. Alors, ceci met une pression indue sur nous-mêmes ou sur les autres pour atteindre des standards inatteignables et causer de la frustration ou du ressentiment lorsque nous échouons et que les autres échouent à rencontrer ces idéaux. Tu mets des idéaux traînement en haut, que toi, tu te sens jamais capable de les atteindre. Puis tu mets tes idéaux pour que les autres que face à toi, tu les mets tellement haut que tu es certain qu'ils n'atteindront jamais autres non plus. Alors, exemple tiré de la vie. La mère occupée qui essaie de garder sa maison propre et en parfait ordre, comme si elle n'avait pas d'enfant, place sur elle-même une pression indue à tenter d'atteindre des standards inatteignables. La femme qui s'imagine qu'elle va maintenir une maison propre alors qu'elle a 12 enfants qui se promènent dans la maison, elle peut maintenir une certaine propreté, mais il ne faut pas qu'elle vise trop haut parce qu'elle ne se sentira jamais à la hauteur, comme on dit. Exemple spirituel. La chrétienne consciencieuse qui s'entête à vouloir surcharger son horaire déjà très rempli, prendre soin de sa maison, préparer les repas, élever les enfants... Si elle tente d'ajouter, de servir sur des comités, de lire de bons livres, d'avoir une longue vie de prière, de faire du bénévolat, elle risque fortement de déséquilibre. Alors, quand quelqu'un est déjà hyper occupé, faut pas qu'elle s'en mette plus de dire « il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça ». Elle l'a déjà, elle est déjà rendue à son quota, comme on dit. Exemple biblique. Voyons la grande frustration de Marthe lorsqu'elle vit que sa sœur Marie avait choisi d'écouter le Seigneur. Elle croyait que Marie n'était pas correcte en ne s'acquittant pas de ce qu'elle croyait essentiel, et elle se plaignit amèrement au Seigneur. Luc 10, versets 39 à 42. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Et Marthe était distraite par divers soins du ménage. Étant survenue, elle dit, « Seigneur, ne considères-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Dixième, la fausse responsabilité. Et on devrait terminer à peu près là-dessus. Fausse responsabilité. Ceci se produit lorsque nous acceptons de porter des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, même lorsque cette acceptation n'est pas basée sur des faits. Exemple tiré de la vie. Votre enfant obtient de mauvais résultats à l'école et vous concluez que vous êtes une mauvaise mère. La véritable raison peut se situer ailleurs. Votre enfant n'a peut-être pas les talents académiques nécessaires. Il est possible que vous ayez très bien fait votre travail d'enseignante auprès de votre enfant. Mais c'est comme si ton enfant ne réussit pas, ben c'est de ma faute. Tu acceptes de prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Exemple spirituel. Lorsque votre enfant abandonne les voies du Seigneur et ne veut plus aller à l'église, malgré que vous ayez tout fait ce qui est humainement possible pour l'éduquer et l'encourager à suivre le Seigneur. Vous êtes rendu à un âge qu'un enfant prend ses propres choix et on n'a pas à se culpabiliser pour apporter les responsabilités qui sont sur une autre personne. Si on a fait tout ce qu'on pouvait, mais c'est vrai que ça amène des problèmes d'ordre psychologique, ça peut même amener des gens à la dépression. Que c'est que j'ai fait pour... Je me suis déjà fait moi-même avec mes propres enfants. Tu veux... C'est comme... Il arrive à un état où ce sont des adultes qui font leurs propres choix et c'est pas nous qui avons apporté la responsabilité de leurs choix. À partir du moment que tu as fait ton possible, tu n'as pas apporté les responsabilités de cela. Exemple biblique. Moïse se sentit responsable des réactions négatives d'Israël en face des providences de Dieu. Et il fut tellement découragé qu'il pria que le Seigneur lui enlève la vie. On ne parle pas de n'importe qui, là. On parle du chef du peuple d'Israël. Nombre 11, versets 14 et 15. Là, il est découragé, il dit au Seigneur, « Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Que si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois point mon malheur. » Voyez-vous, ce n'est pas des hommes, on peut dire que ça arrive juste à des faibles. On parle de David, on parle de Moïse, qui à un moment donné se trouve à des découragements. Ils sont tellement découragés qu'ils disent au Seigneur, « Viens chercher ma vie. » Je ne suis plus capable. Il est trop pesant. Alors, il y a quelques points, quatre points que j'aimerais qui sont importants à se souvenir dans ce qu'on vient de voir. Et le reste, on le fera la semaine prochaine. Alors, les points importants à se souvenir. Les modèles ou patterns de fausses pensées sont compatibles avec le fait d'être un être chrétien. Autrement dit, tu peux être chrétien puis tu peux avoir les 10 choses qu'on vient de mentionner. Là. Toi, tu peux les vivre aussi. Ce n'est pas incompatible avec le fait que tu es chrétien. C'est un fait important à se souvenir. Là. Alors, c'est des faux modèles, mais ce n'est pas à cause qu'on est chrétien qu'on ne peut pas les vivre. Ce n'est pas incompatible avec le fait qu'on soit chrétien. Deuxièmement, les faux modèles de la pensée auront un effet préjudiciable sur vos sentiments, sur vos corps, sur votre comportement, et sur vos âmes, ordinairement dans cet ordre. Sentiment, corps, comportement, âme. Alors, ces faux patterns-là, quand ils sont accumulés, qu'il y en a un ou plusieurs, ça finit par se refléter dans tes sentiments. Tu as des sentiments tout croche, dans ton corps, dans ton comportement et dans ton âme. Donc, ça devient spirituel à ce moment-là. Troisième point à se souvenir, un des premiers pas à faire pour se diriger vers la guérison est de reconnaître nos faux modèles de pensée qui ne reflètent pas la réalité. C'est pour ça que lui, l'auteur, il reconnaît que quand on est dépressif, une des premières choses qu'on devrait faire, c'est de faire ça. Examiner ta vie générale, examiner ta vie de pensée, parce que s'il y a plein de faux patterns dans ta vie, puis tu ne les reconnais pas, puis tu ne demandes pas au Seigneur de t'aider à les changer, ben, ça va probablement contribuer à ce que tu demeures dedans. Et la quatrième, même si nous ne pouvons pas changer grand-chose, ou plus probablement rien du tout, aux circonstances providentielles que le Seigneur envoie dans nos vies, nous pouvons cependant changer la fausse manière que nous avons de penser concernant ces providences-là. On ne peut pas changer les providences que Dieu nous envoie, mais on peut changer notre façon de penser face à ces mêmes providences-là. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui.